France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand.
Et nous sommes le lundi 7 octobre. Bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les ratés de la lutte contre la radicalisation au sein même de la préfecture de police de Paris. L'assaillant Michael Harpon était un fonctionnaire bien noté, mais dont le comportement et les propos avaient inquiété certains de ses collègues sans qu'aucune décision ne soit prise. On en parle à 8h20 avec le ministre de l'Intérieur, donc Christophe Castaner, invité du grand entretien de la matinale. Dialoguez avec lui vos questions 01 45 24 7000. Les autres titres, Agnès.
Pourquoi le chef de l'État veut engager un débat sur la politique migratoire de la France maintenant? Un Parlement plus que jamais fragmenté en Tunisie au lendemain des élections législatives. Trop de pesticides et d'insecticides dans nos maisons. Un premier rapport alarmant de l'ANSES. Et puis la note salée des supporters du 15 de France obligés de prolonger leur séjour au Japon.
Et à 7h50, votre invité Léa Salamé.
Les dernières analyses de dioxines sont très rassurantes, a affirmé hier Agnès Buzyn après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Est-elle rassurée, elle qui a pointé du doigt l'entreprise voyou? L'ex-ministre de l'écologie, Ségolène Royal, sera avec moi à 7h50.
A tout à l'heure.
France Inter. 4 jours après l'attaque au couteau meurtrière à la préfecture de police de Paris, de nombreuses questions restent sans réponse. Le ministre de l'Intérieur a reconnu hier des failles, des dysfonctionnements qu'il faudra, a-t-il dit, corriger et sanctionner. Dans son dossier administratif, Michael Harpon était un informaticien bien noté. Aucun incident n'était signalé. Pourtant, le rapport du service de la préfecture de Paris que France Inter s'est procuré met en lumière un profil plus complexe et plusieurs de ses collègues avaient alerté leur hiérarchie sur des signes de radicalisation, mais aucun signalement par écrit. Emmanuel Leclerc.
La directrice du renseignement parisien Françoise Bilancini, qui est arrivée il y a 2 ans, affirme avoir découvert vendredi seulement les propos qu'aurait tenus Michael Harpon en juillet 2015 pour justifier l'attaque terroriste de Charlie Hebdo et qu'il n'y a jamais eu de note écrite. Ce que tente d'expliquer Patrice Ribeiro, le secrétaire général du syndicat de police Synergie Officier.
A posteriori, on apprend qu'effectivement, peut-être oralement des choses auraient été dites, mais encore une fois, de la part de quelqu'un qui était assez lourdement handicapé, qui était frustré professionnellement, qui peut-être que ses collègues ont pensé à l'époque que ça n'avait rien à voir avec la religion, et d'ailleurs il ne savait pas qu'il avait été converti, donc peut-être sous le coup de la colère. Donc tout ça aujourd'hui c'est facile a posteriori, mais lorsque vous travaillez 24 heures sur 24 avec quelqu'un dans un open space et en qui vous avez confiance, il est très malaisé, on va dire, d'écrire contre ses collègues, surtout s'il n'y a pas de réitération des faits.
Dans son rapport, la patronne de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris affirme que les nouvelles procédures d'habilitation et de renouvellement sont désormais bien plus sévères et intrusives pour rester ou intégrer son service. Le renouvellement de l'habilitation de Michael Harpon, lui, était prévu l'année prochaine.
L'épouse de Michael Harpon a été remise en liberté hier soir après plus de 3 jours de garde à vue. Aucune charge n'est retenue contre elle pour l'instant. Rappelons donc qu'à 8h20, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sera l'invité du grand entretien sur Inter. Quelle politique migratoire pour la France? C'est le débat voulu par Emmanuel Macron pour les mois à venir et qui débute cet après-midi à l'Assemblée, avec un débat sans vote mais des prises de parole de tous les partis politiques. Les discussions se poursuivront après-demain au Sénat. Un débat qui ne fait pas l'unanimité au sein même de la majorité, mais un débat, Cyril Gardiani, que le chef de l'État estime nécessaire maintenant.
Lors d'un récent conseil des ministres, Emmanuel Macron a justifié devant les siens son intention de remettre au centre du jeu politique la question de l'immigration. Et il s'est réclamé de son fameux « et en même temps ». Je veux, a expliqué le chef de l'État, qu'on parle des conditions d'accueil et montrer que les pays ne sont pas ouverts à tous les vents. Pour bien accueillir, a-t-il poursuivi, il faut choisir. Alors pourquoi maintenant? Selon Emmanuel Macron, pour ne pas que cette question soit abordée pendant une crise consécutive à un problème avec un migrant. Mieux vaut l'aborder, comme il l'a dit, par temps de paix. Surtout, le thème de l'immigration peut revêtir une importance considérable à quelques mois des échéances électorales. Le chef de l'État est en effet convaincu que la structuration de la vie politique française se fera autour du Rassemblement national et d'En Marche. Je ne veux pas, a-t-il prévenu ses ministres, qu'il y ait un parti qui en parle mal et un parti qui n'en parle pas. Message adressé à ceux qui, dans sa majorité, préféreraient ne pas en parler.
11 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, les premiers résultats des analyses effectuées sur les fruits, les légumes et le lait des exploitations voisines sont donc très rassurants. Déclaration hier de la ministre de la Santé. Des analyses complémentaires sont toutefois en cours. Si les bons résultats se confirment, les restrictions pourront être levées. C'est le 115e féminicide depuis le début de l'année, selon le décompte des associations. Une femme de 33 ans, mère de 4 enfants, a été étranglée hier par son compagnon près de Morlaix, dans le Finistère. Dans le même temps, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, annonçait un budget multiplié par 2 pour l'an prochain, soit 1 milliard d'euros pour 2020. Une enveloppe qui englobe aussi bien la lutte contre les violences que toutes les politiques menées en faveur de l'égalité entre hommes et femmes. La troisième semaine du procès du médiateur commence aujourd'hui au tribunal de Paris et on est déjà loin de la foule des premiers jours où 5 salles d'audience avaient dû être ouvertes en simultané pour accueillir toutes les parties civiles et leurs avocats. Désormais, une seule salle de 250 places suffit largement, car Corinne Audouin, les victimes de médicaments sont fatiguées.
Elles ne sont qu'une poignée sur les bancs réservés aux parties civiles. Après l'affluence du premier jour, les victimes du médiateur présentes au procès se comptent sur les doigts des deux mains. Comme Chantal, retraitée parisienne, elle a pris le médicament pendant 3 ans et porté plainte pour tromperie.
Je suis là depuis le premier jour et je vais essayer de venir pendant les 6 mois. Je pense que on l'a attendu depuis tellement longtemps, ce procès. Je crois qu'ils en ont marre. Le procès se fait et il doit se faire. Et je pense qu'ils sont tout à fait conscients, mais un ras-le-bol.
Les 2700 parties civiles, éparpillées dans toute la France, souvent âgées ou malades, n'ont pas forcément le temps ni l'énergie de venir aux audiences. Sylvie Topaloff représente plus de 200 plaignants.
On reste encore sur les questions extraordinairement techniques. Je crois que les gens se réservent pour les moments clés du dossier. Par exemple, l'audition de Madame Frachon, je crois que les gens se sentent représentés par le docteur Frachon. Donc ils seront sans doute beaucoup, beaucoup plus nombreux à être là ce jour-là.
Irène Frachon viendra témoigner le 16 octobre. Le tribunal rouvrira sans doute pour l'occasion ses salles de retransmission vidéo. D'ici là, la pneumologue de Brest n'a pas le droit d'assister aux audiences. Elle a ensuite prévu de venir le plus souvent possible.
Et les audiences vont se poursuivre jusqu'en avril 2020. Le début aujourd'hui d'un premier procès dans l'affaire Karachi. 6 hommes comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris pour des soupçons de commissions occultes en marge de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995. 3 politiques, un industriel et 2 intermédiaires vont devoir répondre jusqu'à la fin du mois d'abus de biens sociaux ou de complicité et recel. Édouard Balladur et François Léotard sont eux renvoyés devant la Cour de justice de la République. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30.
Il est 7h08, Agnès, direction la Tunisie au lendemain des élections législatives.
Élection marquée par une très forte abstention, moins d'un électeur sur 2 s'est déplacé et les résultats encore provisoires devraient déboucher sur un parlement fragmenté en de nombreux petits blocs. Maureen Mercier est à Tunis pour France Inter.
Pour la société civile, c'est un coup d'assommoir. Les islamistes des Nardins, même s'ils perdent presque la moitié de leur siège, seront la principale force du Parlement, suivie du parti de Nabil Karoui, candidat à la présidentielle, surnommé le Berlusconi tunisien, en prison soupçonné de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. La troisième place revient à celle qui se revendique de l'héritage de Ben Ali, Habir Moussi. Fresh Fenich, expert international en droits de l'homme et activiste, tente d'encaisser la nouvelle.
Les 3 partis ne représentent pas les aspirations du peuple tunisien, ne répondent pas aux demandes de la révolution.
Si les Tunisiens se réveillent aujourd'hui avec un parlement qui ne leur ressemble pas, c'est parce qu'ils se sont, pour une grande majorité, abstenus de voter pour sanctionner la classe politique. Un choix qui risque de se retourner contre eux.
La jeunesse n'est pas contente, n'est pas satisfaite. Cela pourra provoquer la création ou l'émergence de mouvements contestataires. Automatiquement, il y aura une confrontation.
La Tunisie suspendue aux résultats définitifs qui doivent tomber d'ici mercredi. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
Des élections législatives également hier au Portugal, avec la victoire des socialistes emmenés par le Premier ministre sortant Antonio Costa, qui obtiennent 106 sièges au Parlement contre 86 il y a 4 ans, mais toujours pas de majorité absolue, d'où des négociations avec le bloc de gauche et les communistes, et c'est nouveau avec le parti animaliste.
Attention, les pesticides sont aussi à la maison.
En plein débat sur la distance nécessaire entre les champs traités et les habitations, l'ANSES met en garde dans un rapport qui sort aujourd'hui sur les dangers des des insecticides et autres pesticides utilisés à l'intérieur, notamment pour éliminer les puces de nos chiens et de nos chats. Daniel Messager.
Un peu comme les médicaments, les pesticides sont très présents dans les maisons et leur usage banalisé. 75% des ménages en ont utilisé au moins un par an, en tête les insecticides pour nos amis les bêtes, pour éliminer chez les chiens, les chats, puces et autres tiques, mais les conditions d'utilisation laissent souvent à désirer. C'est pourquoi l'ANSES recommande d'utiliser des gants lors de l'application de ces produits, d'aérer et de ne pas laisser ces animaux traités, dormir ensuite avec des enfants ou des femmes enceintes, sujets les plus sensibles. Viennent ensuite les biocides contre les insectes volants et les rampants. Pour cet usage, un quart des utilisateurs ne lisent jamais les précautions d'emploi. Puis les produits contre les maladies des plantes. Il existe d'ailleurs fréquemment chez les particuliers des produits stockés, fongicides, herbicides, interdits à la vente depuis le début de l'année. L'ANSES s'inquiète ensuite de l'élimination de ces produits. 60% des ménages les jettent à la poubelle, voire dans l'évier, alors qu'il faudrait s'en débarrasser dans une déchetterie ou à un endroit prévu par l'agglomération. Une étude qui révèle encore beaucoup de lacunes dans la connaissance et l'usage de ces produits.
Et à découvrir sur franceinter.fr le profil des utilisateurs des pesticides au quotidien. Paris gagné pour Claude Puel, nouvel entraîneur de Saint-Etienne et qui s'offre pour son premier match une victoire 1-0 face à Lyon, son ancien club. À l'issue de la 9e journée de Ligue 1, Saint-Etienne quitte ainsi le bas du classement et se hisse à la 13e place devant Lyon, 14e. Le PSG, Nantes et Angers forment le trio de tête.
Rester ou partir, tel est le dilemme des supporters du 15 de France au Japon.
Des supporters heureux qui ont vu l'équipe de France se qualifier hier pour les quarts de finale après une petite victoire sur les Tonga 23-21. Reste donc un match de poule samedi contre l'Angleterre avant un quart de finale le 19 ou le 20 octobre face à l'Australie ou le Pays de Galles. Mais une Coupe du Monde de rugby au Japon, ça coûte cher, Jérôme Val.
On les repère facilement, ces Français que la distance n'a pas rebuté, avec leurs accoutrements qui font sensation auprès des Japonais. Marouane déguisé en Obélix.
On s'est motivé il y a 3-4 ans pour partir ici. On a loupé la Coupe du Monde en Angleterre il y a 4 ans par défaut d'organisation. On s'est dit, celle-ci, on la loupe pas.
D'autres voyagent en famille avec les enfants.
C'est beau et c'est joli. On va avoir beaucoup de matchs.
Et on est trop content de louper l'école.
Entre les transports, l'hébergement et le prix des places pour assister au match, ce périple représente beaucoup d'argent.
Ça nous coûte combien à peu près ?
Marie vient de la région parisienne avec un groupe de 6 amis.
5 000 euros par personne. Ouais. C'est pas non plus 20 fois dans sa vie, donc on s'est lancé quoi. Ouais,
Baptiste, lui, a un budget un peu plus serré.
Le tout, 2000 euros, c'est un budget de 2000, ouais, sans compter les bières. Sans compter les bières, ouais.
Ce Toulousain a prévu de rester jusqu'au match face à l'Angleterre en joignant l'utile à l'agréable.
C'est à l'autre bout du monde, ça permet de visiter un pays avec une autre culture, ça permet d'allier passion et voyage.
Difficile d'évaluer le nombre de Français ici au Japon, mais ils font partie des contingents de supporters les plus imposants, avec les Anglais, les Australiens et les Irlandais. Kumamoto, Jérôme Val, France Inter.
Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'être au Japon, rendez-vous samedi à 10h10 pour le match contre l'Angleterre.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, le zoom sur la Joconde, la superstar du musée du Louvre.